Bonjour, chers amis. La laïcité de l'État français, dont j'ai énoncé les principes et tracé les grandes lignes dans nos entretiens précédents, a été acceptée par l'Église catholique après une longue évolution tout au long du XXe siècle. Elle a permis d'arriver à un certain équilibre des relations État-Église catholique. C'est pour cela que, lors de l'anniversaire du centenaire de la loi de séparation de 1905, l'Église catholique en France n'a pas demandé une révision de la loi. Elle avait peur de remettre en question ce fragile équilibre auquel on était arrivé de part et d'autre. Et cela est entériné par le pape Jean-Paul II, qui, le 11 février 2005, écrit aux évêques de France en se félicitant que la paix entre l'Église et l'État soit devenue une réalité, et qui leur dit: le principe de laïcité auquel votre pays est attaché, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église. Comment l'Église catholique en est-elle arrivée à cette affirmation? Comment est-on passé d'une attitude d'opposition à une attitude positive? Nous avons vu que pour exister, la laïcité a dû s'imposer et que son avènement n'a pas été le pur produit d'une évolution naturelle. Émile Poulla, qui est un spécialiste de notre laïcité à la française, y voit une profonde transformation de notre société qu'il traduit en ces termes. Le passage de la catholicité à la laïcité n'est pas un simple changement de régime. Il tourne une page dans l'histoire de l'humanité et inspire une expérience sociale inédite. Pour la première fois, une société renonce à rechercher en Dieu son lien, son garant, son fondement, pour s'en tenir à un contrat entre ses membres, où leur accord à la majorité décide du statut accordé à la religion. C'est bien cela que l'Église constate et réprouve par la voix du pape Pie XI en 1923. Toutes les fois que par laïcité, dit-il, on entend un sentiment ou une intention contraire ou étranger à Dieu et à la religion, nous réprouvons entièrement cette laïcité et nous déclarons ouvertement qu'elle doit être réprouvée. Cette condamnation sera renouvelée en 1925 par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, quand le gouvernement dit du cartel des gauches manifestera son intention de revenir à une stricte application des lois de 1905 et de 1907, et tentera même l'application de ces lois au département d'Alsace et de la Moselle. Les évêques appelleront les catholiques à la désobéissance en ces termes: les lois de la laïcité supposent la méconnaissance totale de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. Elles tentent à substituer au vrai Dieu des idoles. Nous avons le droit et le devoir de les combattre et d'en exiger par tous les moyens l'abrogation. Il faut alors bien comprendre que pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, nos aînés dans la foi catholique ne savaient pas où on allait, d'autant plus que des malentendus subsistaient, tels que la spoliation des biens de l'Église et la suppression de la rémunération des frais de culte qui, au XIXe siècle, avaient été pris en charge par l'État en compensation de la première confiscation des biens du clergé survenue en 1789. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le retour à un mouvement d'unité nationale pour trouver un nouveau souffle dans cette affaire. En effet, en 1944, lorsque les partis politiques issus de la Résistance manifestent leur désir d'inscrire la laïcité dans la nouvelle Constitution, les cardinaux et archevêques de France font un examen de la situation. Il constate que la jurisprudence du Conseil d'État a eu le souci de respecter la liberté de conscience de chacun, spécialement dans la fonction publique et les établissements d'enseignement public, ce qui a contribué à calmer les esprits. Ils font alors une déclaration publique dans laquelle ils distinguent le laïcisme, qu'ils considèrent comme une idéologie de combat, et le régime de laïcité. Ils affirment que ce type de laïcité est acceptable dans la mesure où elle n'impose aucunement un matérialisme athée à la fonction publique. Et ils encouragent les parlementaires catholiques de l'époque à faire inscrire le principe de laïcité dans la Constitution de 1946. C'est ce qu'on pourrait appeler le ralliement de l'Église à la neutralité religieuse de l'État. Le même débat sera repris lors des travaux constitutionnels de 1958 et les évêques considéreront à nouveau recevable une laïcité cherchant seulement à séparer le spirituel du temporel. L'évolution va continuer grâce à diverses circonstances. D'abord, l'État français d'aujourd'hui a considérablement changé par rapport à ce qu'il était en 1905. La philosophie politique de la République n'est plus la même. Comme l'explique l'historien René Raymond, le système philosophique qui sous-tendait la laïcité au départ reposait sur trois piliers. L'unité nationale, et même l'uniformité nationale, qui ne souffrait la manifestation d'aucun particularisme, et surtout pas celui de l'Église catholique. Deuxièmement, un rôle de l'État strictement enclos dans la sphère publique de l'époque, distincte et séparée de la sphère privée, qui est le domaine de la conscience et des libertés individuelles dont relève la religion. Et troisièmement, l'absence de reconnaissance de la société civile dans la pure tradition de la Révolution française qui avait interdit toute association. En 100 ans, ces trois piliers ont tous subi des transformations profondes. L'unité a cédé au pluralisme, devenu un attribut et un critère de démocratie. L'État intervient désormais dans de nombreux secteurs privés afin de remédier à certaines carences. Et le budget public n'assure plus seulement le fonctionnement des services publics, mais opère aussi une redistribution des ressources et soutient toute activité jugée utile à la collectivité. Enfin, la société civile a pris son ampleur, avec le droit de citer des syndicats et des associations type 1901 que l'État utilise pour l'accomplissement plus souple de certaines de ses activités et auxquels il accorde des subventions ou des exonérations fiscales dans un cadre de partenariat. Mais la vision de l'Église catholique a aussi considérablement évolué. Elle qui appelle les catholiques à une véritable participation à la vie publique de la nation. Dans le respect de la laïcité, ceux-ci ont largement pourvu et pourvoient encore notre société en cadre dirigeant les affaires publiques, armée, administration, justice, et même parlement et gouvernement de la France, et des affaires privées, entreprises, syndicats, associations, etc. C'est la raison pour laquelle la lettre aux catholiques de France, publiée en 1996 par la Conférence des évêques de France, pouvait prendre acte du caractère positif de la laïcité, non pas telle qu'elle a été à l'origine, mais telle qu'elle est devenue, offrant ainsi aux catholiques de France la possibilité d'être des acteurs loyaux de la société civile. Cette position a été fondée théologiquement, en particulier grâce à la doctrine sociale de l'Église et au Concile Vatican II. La prochaine fois, nous verrons comment la laïcité peut être considérée comme un principe parmi d'autres de cette doctrine sociale de l'Église.